Bonjour à tous, et oui, c'est l'opus du mercredi que vous attendez avec une impatience non dissimulée, comme je vous comprends bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphane Roux, qui est un comédien, on peut dire que tu es pratiquement sociétaire de l'émission maintenant.
Oui, ça fait un paquet d'années que je viens... Ouais.
Alors, je tiens à dire que je le reçois, non pas parce que sa famille m'envoie des chèques, mais parce qu'il joue actuellement...
Des chocolats.
Il joue actuellement dans un spectacle magnifique qui tout de suite a trouvé son public au Petit Montparnasse, qui est Glenn, la naissance d'un génie.
D'un prodige. Voilà.
Ah.
Pièce écrite et mise en scène par Yvan Calberac.
Oui.
Qui lui-même est un petit génie, hein, on peut le dire, parce qu'il est aussi brillant au théâtre qu'en téléfilm ou au cinéma. Et en fait, on a trouvé notre public dès le Festival d'Avignon, puisqu'on l'a créé cette année au Bélier, à Avignon. Et ça a été un grand bonheur. Bon, on sentait qu'on tenait un sujet fort, mais le public a suivi très très vite, ainsi que les professionnels et les journalistes. Et on est très heureux. Alors, moi, je ne joue pas Glenn Gould, hein, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Glenn est interprété par le formidable Thomas Gendronneau, qui est multidoué.
Tout à fait étonnant, oui.
Il est
s'il n'est pas nommé au Molière...
Oui, c'est qu'il y a un
c'est que vraiment, il y aura un gros problème.
Le,
oui, oui, le spectacle doit être nommé au Molière également, hein.
On l'espère.
Non, mais
ça ne dépend pas que de nous. Mais,
ouais, mais je me permets de t'interrompre parce que d'abord le spectacle a été donc au Petit Montparnasse.
Pendant 4 mois.
Qui s'est joué quasiment à guichet fermé.
Ouais.
Vraiment, je peux dire que même moi, journaliste, j'avais ma place. Attaché de presse m'avait oublié, mais je suis rentrée quand même. J'aurais fait un scandale de toute façon. Mais avec même les gens des professionnels n'ont pas pu voir le spectacle.
Ah ouais.
Et là, c'est repris.
Au Splendide. Du mardi au samedi à 21h, ainsi que le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h.
Voilà. Alors, finalement, c'est la première grande salle dans laquelle vous êtes.
Oui, absolument. C'est une... ouais, oui, puisque les Béliers, c'est 190 places, le Petit Montparnasse, c'est 190 places, et là, on est...
Mais je parlais plutôt par rapport au plateau, quoique...
Alors, le plateau est légèrement moins large en ouverture que le Petit Montparnasse.
Oui.
Qui est une belle
scène. En 10 ans, j'étais en train de visualiser le Petit Montparnasse.
Oui, il doit nous manquer un mètre ou à peu près quelque chose comme
donc,
ça.
Donc, au lieu d'avoir un piano à queue, vous avez pris un demi-queue.
Un quart. Je pense que c'est un crapaud, carrément.
Alors,
mais voilà. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que Thomas Gendronneau, qui interprète Glenn, lui, à la base, il est polyinstrumentiste, mais il est pas pianiste. Il est guitariste, bassiste, batteur, chanteur. Il a des groupes, il compose, il écrit de la musique, il écrit des pièces. Enfin, il est incroyable. Véritable homme orchestre. Et donc, il a travaillé le piano et il a appris des morceaux pour pouvoir les jouer en direct. Mm-hmm. Parce que souvent, on nous demande, est-ce que c'est enregistré? Je dis, écoutez, vous voyez bien que le son est direct, ça se voit. Ça s'entend,
ouais.
Surtout.
Alors, il faudrait qu'on parle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est ce personnage extravagant, horripilant et génial, qui est Glenn Gould.
Oui, alors Glenn Gould est né au Canada en 1932. Et dans une famille protestante. Alors, il y a un truc amusant, c'est qu'il s'appelait Gold au départ. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qu'on comprend, c'était un peu chaud de porter un non-juif, même au Canada.
Même au Canada.
Bien sûr. Et donc, le père a changé en Gould.
Ce qui
a permis ensuite à Glenn Gould de faire un jeu de mots, de dire « j'ai été juif ». Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était un pianiste absolument génial, dont les parents se sont rendus compte à 2 ans, 2 ans et demi, je crois, qu'il avait l'oreille absolue.
Ouais, ouais.
Et il se trouve que sa mère, Florence, qu'on appelle Flora, nous, dans la pièce, Florence Gould, elle était elle-même prof de piano, d'orgue et de chant.
Ouais.
Mais son père lui a interdit de faire une carrière de concertiste parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas pour une femme. Elle devait rester à la maison, s'occuper de sa famille et de son foyer. Et donc, en fait, elle a reporté toute sa frustration
elle
sur
a une
son
revanche
fils
à prendre
unique. Une revanche
par le biais de son fils.
Bien sûr. Qu'elle a mis beaucoup de temps à avoir, puisqu'elle explique dans une scène assez truculente avec le futur manager qui est interprété, alors je vais quand même citer mes camarades, donc la mère de Glenn Gould, c'est Josiane Stoleru, en alternance en ce moment avec Raphaëline Goupillot.
J'adore Josiane Stoleru.
Ah ouais, mais les deux sont très différents, mais elles sont remarquables. Le papa, c'est Bernard Malacca.
Qui joue en alternance avec lui-même.
Qui joue en alternance avec lui-même pour l'instant. Il y a le rôle de la délicieuse cousine amoureuse, éternelle et malheureusement éconduite de Glenn. Jessie, qui est jouée par Lison Pennec, qui à mon avis elle aussi mérite une nomination en révélation. Et voilà. Et après, nous avons deux voitures balais. Benoît Tachoir, qui est formidable dans le rôle de l'impresario, et qui joue également le psychanalyste de Jesse et le vendeur de piano de
Chez Steinway. Qui est souvent venu ici, Benoît.
Oui. Et en ce moment, donc, il est remplacé, donc il y a une alternance aussi avec Michel Scotto di Carlo, qui nous fait l'honneur de venir.
Très séduisant.
Voilà. Absolument.
Et vous, monsieur Roux, que jouez-vous?
Alors moi, je joue 5 personnages. Je joue... Alors, je suis très ému d'être dans un studio de radio, puisque je joue un animateur radio de Radio-Canada.
Ça m'a beaucoup fait rire,
Avec un accent canadien assez prononcé. Enfin, on a essayé de le travailler pour que ce soit le plus crédible possible. Et puis, je joue également l'un des producteurs de la Columbia. Donc, avec qui Glenn va signer son premier contrat et enregistrer les variations Goldberg. Et je joue également. Qu'est-ce que je joue? Je joue un serveur assez taciturne. Le présentateur du New York Town Hall, le premier grand concert de Glenn. Et puis je joue l'assistant personnel Ray Robertson, l'assistant personnel de Glenn.
Il faut dire que Glenn Gould, moi je l'ai rencontré. Il faut raconter qu'il y a un temps que nous on a connu où la télévision n'émettait pas tout le temps. C'est-à-dire, il y avait des heures, il n'y avait pas. Même,
la nuit, il y avait
les émissions, parfois, on pouvait avoir des chaînes qui s'arrêtent à 11h, minuit, voilà. Un événement avec le cinéma de minuit, qui, visiblement, est émission qui ne plaît pas à la nouvelle directrice de France Télévisions, puisque le cinéma de minuit, elle aime beaucoup, parce qu'elle est taquine, elle nous le met à 2h du matin. Et on s'étonne que notre jeune génération soit inculte dans beaucoup de domaines. Mais bon, ça serait bien de mettre des grandes choses à heure grande écoute. Voilà, c'est ma parenthèse. Et il y avait sur la troisième chaîne, je crois que c'était pendant un été, et il y a eu l'intégrale de Glenn Gould qui a filmé ça. Et d'abord, je regarde, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gugus? Parce qu'il jouait sur sa chaise d'enfant, une chaise dans un état absolument lamentable.
Construite par son père.
Voilà, donc on se dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que c'est un gag à la Woody Allen, quoi, vraiment. Donc, et il jouait, mais... avec un doigté qui finalement est orthodoxe et ne le doit pas, mais c'est très difficile de faire mieux pour les variations Goldberg.
Il était spécialiste de Bach et de Beethoven. Voilà.
Et il joue Bach, alors comme je le dis souvent ici et pendant Balade Musicale, mission qui passe tous les samedis matins à 11h, pour moi Bach c'est Dieu. Et Mozart, c'est Jésus. Voilà.
Ah, c'est
donc
joli.
C'est un peu ma définition de la musique. Après, on a forcément le Saint-Esprit, c'est Ravel. Voilà. Je n'admettrai aucune contestation en la matière. D'ailleurs, Francky, ça le fait rigoler, mais parce qu'il me connaît bien maintenant. Toute personne qui n'aime pas Ravel ne peut pas participer
à ton émission.
C'est pas possible. Et donc, j'ai tellement été scotchée par ça que j'ai plus raté un seul rendez-vous avec cette émission de télévision. Qui d'ailleurs, c'était quand même un petit peu honteux parce qu'elle passait du genre 11h du soir. Voilà. Donc, mais ça m'a... J'ai découvert beaucoup de choses et surtout cette personnalité extrêmement complexe. Finalement, fracassée intérieurement parce que cette mère abusive... Parce que c'est une mère abusive.
C'est
comme toutes les mères qui ont une carrière de danseuse, de Miss Tartampion, d'artiste, de nageur, reportent sur leurs enfants et les obligent à faire quelque chose, ce pourquoi ils n'ont pas finalement tant envie que ça de le faire. Voilà. Et là, Glenn, finalement, on lui a volé son enfance.
Ah, totalement.
Parce que pour atteindre à ce niveau-là, le piano, c'est des heures et des heures
C'était, alors ils jouaient apparemment au moins 5 heures par jour.
Oui, voilà, au moins. Moi, j'avais vu, c'était plus que ça.
Au début, sa mère le limitait à 5 heures.
Ouais. Bon. Ah oui, parce que c'est ça qui est amusant, c'est que ses parents, malgré tout, doivent le priver de piano parce qu'ils sentent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais, je pense que c'est un être qui n'était heureux que quand il était seul au piano.
Oui.
Il était asocial, il était hypochondriaque, merci maman, elle lui a refilé toutes ses peurs des microbes. C'est même à se demander d'ailleurs quand il meurt d'un AVC à 52 ans si il n'est pas victime aussi de la surmédication qu'il a subie pendant toute sa vie.
Hein. Oui, c'est ça. Ouais.
C'est pas que le fait de travailler beaucoup du chapeau, parce qu'il était évidemment très brillant.
Mais je prends l'exemple de Judy Garland, parce que j'ai envie de les rapprocher tous.
Ah oui.
Parce que Judy Garland, ça a été une enfant
très,
prodige.
Très jeune aussi. Ouais.
Donc une voix exceptionnelle, et sa mère l'a exploitée d'une façon absolument scandaleuse. Et lorsqu'elle a été dans les studios, parce que avant Le Magicien d'Oz, Judy Garland faisait partie de ses enfants vedettes, comme l'a été Elizabeth Taylor, avec le meilleur ami de Judy Garland qui était Mickey Rooney, ou Dina Durbin. Ils faisaient des films comme ça. D'ailleurs, je crois beaucoup revoir les films où Rooney fait le fils du juge Hardy, où il joue souvent avec Judy Garland, qui étaient des comédies absolument délicieuses. Et Judy Garland, bon, après, a été l'héroïne de Dorothy du Magicien d'Oz. Mais quand on voit les médicaments qu'on lui donnait pour pas dormir, après pour dormir, toute sa vie, elle a eu... Je n'aime pas du tout le film qui a été fait sur elle.
Je l'ai pas vu.
N'aime pas du tout le film. En plus, la comédienne dont j'ai oublié le nom a fait une composition qui ne me plaît pas. Mais enfin, bon, c'est mon avis personnel. Mm-hmm. Je partage avec moi-même. Mais on a un malaise parce que en plus très tôt, elle a eu une sexualité débridée comme ses enfants vedettes. C'était finalement pas la fabrique des rêves. Babylone, oui, mais une Babylone où c'est ils sont martyrisés parce qu'on leur vole leur enfance, littéralement.
Mais bien sûr.
Donc voilà. Et moi, j'ai fait un parallèle avec Glenn Gould, où c'est dans une autre proportion, parce qu'il est sous la coupe de ses parents, surtout de sa mère.
Ah, surtout de sa mère. Son père est assez veule, faut bien le dire. Il est gentil, mais il dit amen à tout ce que sa femme décide. D'ailleurs, il le dit. Moi, c'est une des phrases qui me fait hurler à chaque fois de rire. Quand Bernard dit à la fin, en vivant sous ce toit, il y a longtemps que je n'ai plus le choix de ce que je dois penser.
Oui. C'est vrai. Voilà, on va faire une première pause musicale. Forcément, on parle de Glenn Gould.
Ah, oui.
Donc, on va mettre un extrait des variations Goldberg, parce qu'on ne peut pas parler de Glenn Gould sans écouter. C'est absolument magique.
Absolument.
Merci Glenn d'être en studio. Nous t'écoutons.
Thank you.
Voilà, c'était naturellement un extrait des variations Goldberg, puisque je reçois aujourd'hui Stéphane Roux pour Glenn, la naissance
d'un prodige.
Je ne sais pas pourquoi, je vais toujours dire d'un génie, qui se joue actuellement avec très grand succès. Splendide, il est prudent de réserver ses places.
Ah oui, oui.
Vous allez avoir... Alors, cette pièce que j'ai trouvée remarquable, c'est qu'à la fois, si les gens connaissent Glenn Gould, ils vont retrouver... Et s'ils ne connaissent pas Glenn Gould, ils vont découvrir un interprète absolument remarquable.
Habité.
Ouais. Insupportable. Mais les génies sont, à mon avis, insupportables.
Oui, souvent, oui, hein. Oui. En plus, je pense que c'est une pièce très personnelle d'Ivan Kalmerac, qui est notre auteur metteur en scène. C'est un sujet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, qu'il aurait voulu monter avant le Covid. Bon, évidemment, ça s'est pas fait. Et je pense qu'il le portait dans son cœur depuis très longtemps. D'ailleurs, Ivan lui-même est pianiste.
C'est l'une de ses meilleures pièces.
Ah, je trouve.
À
aussi.
Mon avis. Ouais, hein. Ouais, donc, ouais. Voilà. Voilà.
Il est comme un père pour nous. Il nous suit, vient nous revoir régulièrement.
Moi, quand je suis venu, il était dans la salle. Quand on s'est retrouvés, tu sortais d'une après-midi, où d'ailleurs j'avais plein d'amis qui étaient là, qui m'ont dit c'est génial, il était là. Ça fait plaisir d'être soutenu par son auteur.
Ah oui. Et puis, j'adore ça, hein, je suis moi un grand perfectionniste, c'est un immense perfectionniste, et il continue à faire évoluer le texte. Il y a eu des petites adaptations pour le Splendid parce que la salle est beaucoup plus grande, le volume, tout ça et tout, donc il a fallu élargir, nous, déjà techniquement, porter plus la voix, augmenter les enjeux, là où au Petit Montparnasse on jouait plus cinéma, on peut dire.
Ouais.
Là, il faut jouer un petit peu plus théâtre et en même temps garder la sincérité.
Oui, parce que la scène est haute.
Elle est haute.
Hein,
ouais.
Elle est très haute. Je crois que le Splendid, avant, c'était un cinéma.
Un cinéma porno, même.
Ah, zut, j'ai raté ça.
Hein, ah, oui. quand l'équipe du Splendid l'a racheté, c'était un cinéma pornographique.
Porno.
Ouais. Il y en avait beaucoup dans le quartier.
Oui.
Et
le Brady.
Voilà, absolument. Ah. Donc voilà, donc techniquement c'est une salle qui est pas facile. Donc il faut saisir le public donc il y a eu des petites améliorations, des petits aménagements et Yvan nous propose régulièrement, il dit tiens, peut-être cette réplique là, teste-la plutôt comme ça, on rajoute un mot, on en retire un.
Mais ça c'est formidable parce que t'as des auteurs parfois qui sont tellement fixés sur leur texte qu'ils ne veulent rien changer. Claudel était un petit peu comme ça. Je sais que Jean-Louis Barrault, quand il a adapté Le Soulier de Satin à la Comédie Française, où quand même ça faisait 6 heures, hein, alors que l'intégralité du Soulier fait en 12 heures,
je crois.
12 heures, hein, voilà.
Semble, oui.
Donc, d'ailleurs, un critique fameux avait dit à l'époque, heureusement qu'il n'y a pas la paire, parce que non, ça semblait un petit peu abscongeant.
Ça,
et Maribel, illustre comédienne et sociétale, hein, elle dit, maître, je ne comprends pas ce que je dis. Et lui, peu importe, vous le dites si bien. Donc, les autres ont dit, on va un petit peu souffrir, et qu'il n'y avait que Jean-Louis Barrault, qui a monté d'autres pièces de Claudel, naturellement, qui a pu arriver à faire changer, mais c'était très compliqué. Alors, il y a un autre spectacle en ce moment qu'on attendait, qui est un événement,
un peu plus au sud.
Hein.
Nous, on se situe à Toronto.
Vous êtes à Toronto,
et là, on est à Chicago.
Voilà. Hein, quand même. Bon. Alors, Al Capone, alors, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il s'appelait Albert, mais en réalité, c'est Alphonse Capone. Al, ça le fait plus que Alphonse, quand même, faut bien reconnaître. Al Capone est interprété par mon Roberto Alagna préféré. Alors déjà, ça a été un coup de tonnerre, parce que Roberto Alagna, qui est quand même une star internationale, et ce sont pas des mots du chant lyrique, c'est l'un des plus grands.
Il est extraordinaire.
Il a toujours aimé, d'abord il a chanté, il a fait des disques avec des ballades siciliennes, il adore Luis Mariano, donc il n'a pas cet ostracisme qu'il y a parfois entre certains genres. Hein. Bien sûr, ça n'existe plus entre le théâtre privé et le théâtre public. Oh bah non.
Non, bien sûr, ça se saurait.
Voilà. Donc.
Oui, il est vraiment pluriel, Alagna.
Ah oui, et puis c'est un comédien merveilleux. Alors, Jean-Félix Lalanne a écrit une partition sur Al Capone et il a tout de suite pensé à notre Roberto national et il lui a proposé. Et puis, je crois que le. Je crois que quelque part, ça l'a amusé.
Sûrement.
De changer de challenge, d'être dans d'autres tonalités, tout ça. Et alors, il a eu une excellente idée. C'est que pour faire Elliot Ness, il a pensé à quelqu'un que j'adore, qui est Bruno Pelletier. Alors, Bruno Pelletier, comme tu le disais très justement, il a joué dans Starmania, c'est l'un des créateurs Jimmy ou Jackie Roquefort, Johnny Roquefort, merci. Et il s'est fait connaître en France encore plus avec Notre-Dame de Paris. Il est fini le temps des cathédrales.
Oui.
Et il est revenu en France il y a quelques années pour jouer une autre comédie musicale qui était Dracula, que j'avais vu à Lyon. Et voilà, d'abord Bruno Pelletier a une vraie présence sur scène. Et il a une voix exceptionnelle. D'ailleurs, tous les deux, enfin, Roberto, il a cette voix d'opéra, mais Bruno Pelletier a pris des cours de chant d'opéra et c'est le seul qui lui tient tête vocalement, si j'ose dire. Alors, Roberto Alagna nous a confié que forcément, c'est pas les mêmes enjeux sonores, parce que d'abord, ils sont tous des micros,
microté,
alors que Roberto Alagna, il peut se passer de micro. Donc, il dit qu'il chante un peu moins fort. Bon, de temps en temps, il est un peu emporté par son élan et comme j'aime beaucoup le dire, on peut pas demander à un pur sang quand on lui demande de courir, de courir à deux à l'heure. Il part, voilà. Cette belle distribution, il y a Angoon qui fait la maîtresse d'Al Capone.
Magnifique.
Qui est quand même une femme absolument
sublime.
Magnifique. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Angoon. J'ai toujours trouvé d'abord très sympathique. Alors, la mise en scène est de Jean-Louis Grinda. C'est aux Folies Bergères. Coproduit naturellement par Jean-Marc Dumonté. Alors, moi j'ai pris énormément de plaisir à voir ce spectacle. Néanmoins, d'abord je l'ai vu avec du vrai public, du public qui a payé sa place.
Oui.
Ça change la donne.
Ah oui,
voilà.
C'est important, ça. Oui.
Alors, déjà, on sent que les gens, ils étaient heureux. Il y a des musiciens sur scène, ou plutôt en haut, voilà, on les voit, il y a des vrais musiciens. Il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a un véritable effort qui a été fait sur les costumes. C'est vrai, parler de Chicago à cette époque de la Prohibition sans les costumes adéquats, ça me semble quand même un petit peu bizarre. Mais il y a quand même. Et il faut bien reconnaître que Alagna et Bruno Pelletier sortent du lot. Et d'ailleurs, les applaudissements s'y reconnaissent vraiment.
Mmh.
Vraiment.
Le
et il y a dans deux solos de Bruno Pelletier où il a reçu une véritable ovation méritée. Je trouve que c'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent. Donc, la sœur d'Al Capone est jouée par Kaina Blada. Alors, Kaina Blada a une très jolie voix, mais c'est mon petit reproche qui, à mon avis, ne s'accorde pas forcément avec les autres. Mais elle a une jolie voix. Et Thomas Boissy, qui fait le frère, qui fait Frank Capone, le frère, qui fait vraiment une très, très, très belle prestation. D'ailleurs, il connaît les Folies Bergères, puisqu'il y a, déjà joué. Donc, je trouve que c'est une très belle production, parce qu'on a donné les moyens. Il y a des décors, des costumes, mais forcément, je dois reconnaître que c'est pas Starmania, c'est pas Notre-Dame de Paris, il y a un petit peu un décalage. Mais je fais des répliques comme ça, mais j'ai pris un énorme plaisir. Moi, j'ai passé une excellente soirée avec mes amis, nous avons passé une excellente soirée, et puis de toute façon, quand on voit Alagna, Bruno Pelletier, moi personnellement, je suis heureuse.
On va pas bouder son plaisir. Et alors, moi, j'irais aussi pour Angoon, personnellement.
Alors, oui.
Et puis, c'est quand même une création française.
100%. C'est une création française.
C'est pas une unixième adaptation d'une création américaine ou anglaise.
Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a peut-être des choses à perfectionner, comme on dit des gens très proches de la production. Comme elle dit, oui, on va acheter. Alors, pour en juger, on va passer tout de suite un extrait de Al Capone. L'air s'appelle Scarface, chanté par Roberto. Hi, Bobby. On t'écoute tout de suite.
C'est ce soir-là que j'ai tourné enfin la page. Quand le nom de Capone est né sur mon visage. Scarface comme un surnom qui me colle à la peau d'un adolescent qui trouve à son chemin le parfum d'alcool et de sang. dans ses mains, nos yeux perdus dans les regards de ceux qui en ont peur. Mon âme est plus noire que l'est mon cœur. Un rêve au milieu d'une trêve.
Pourquoi Scarface? Parce que c'était le Balafré, Capone.
Eh oui.
Il explique pourquoi. D'ailleurs, je ne savais pas du tout l'origine de
la Balafre.
Alors forcément, quand on voit ça, on pense aux incorruptibles. On pense d'abord aux incorruptibles,
oui. Elliot Ness.
Et alors à l'époque, il y avait une chanson que j'ai pas pensé mettre, j'en mettrai plus une autre fois, où ça avait un tel succès, ce feuilleton qui était très court, avec Robert Stack.
Classe.
Et alors, on a la musique en tête, et Petula Clark était une star véritable dans les années 60, et elle avait une chanson sur les incorruptibles qui était très très drôle, qui était très drôle là-dessus. Donc,
alors tu sais que moi qui suis né dans les années 60, puisque je suis né en 65, quand j'étais petit, quand j'avais, je crois, 7, 8 ans, qu'on me demandait qui était mon chanteur préféré, c'était Sacha Distel.
Oui.
Je le trouvais tellement beau.
Ah,
et,
oui.
Et en fait, j'ai toujours aimé les crooners. Mmh. Et c'était un super crooner français.
Ah oui, puis... Ouais.
Et ma chanteuse préférée, c'était pas une chanteuse française, c'était Petula Clark. Pourquoi? Parce qu'un samedi soir, dans numéro 1, de Mariti et Gilbert Carpentier, ils avaient fait un duo ensemble, et à la fin, ils s'étaient embrassés sur la bouche, ils s'étaient fait un petit bisou, comme ça. Je les trouvais, mais tellement rayonnants, tous les deux.
Alors, la chanson, c'était, pardonne-moi, mais les incorruptibles allaient s'occuper de lui. Pam, 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 pam. Mais déjà, c'était célèbre. Et Sacha Distel, il faut rendre à Sacha Distel aussi. Parce que Sacha Distel a été le Sacha Show. C'était un événement. Mmh. C'est lui qui avait eu l'idée. Parce que Sacha Distel, il chantait, il dansait, il jouait la comédie, faut pas l'oublier. Voilà. Et puis, comme tu dis, il était très très beau, Sacha Distel. Voilà. Mais alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de piller les Carpentiers, le Sacha Show, et qu'on nous les passe en entier. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol de ces petits bouts comme ça. Même pas des morceaux choisis, c'est du pillage organisé, et c'est vraiment dommage ce genre de choses. Ouais. C'est vrai qu'ils aient... Petula Clark a fait une chanson que j'adore, qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge. Tous les pays où j'aime vivre sont bleu, blanc, rouge, qui est une très, très, très belle chanson. Mmh. Bon, on n'a pas prévu de la passer aujourd'hui. Tu seras obligé de revenir.
Bon,
mais Stéphane est là, non seulement pour parler de ses chanteurs préférés, mais également, il joue actuellement dans une pièce qu'il faut avoir vue. C'est comme ça. Dites pas, gna gna. Faut avoir qui s'appelle...
Glenn, naissance d'un prodige, écrit et mis en scène par Yvan Kelmerinck.
Et avec un prodige de la scène.
Alors, avec Thomas Gendronneau, qu'il faut vraiment venir découvrir, avec...
J'aimerais que tu redises le nom de la jeune femme qui fait sa cousine.
Oui, j'allais le lire, parce qu'ils sont tellement beaux, tous les deux aussi. Ouais. C'est Lison Pennec.
Mais il y a tellement d'émotions quand elle appelle, et que, je sais plus si c'est le père ou la mère, parce que moi j'ai vu il y a un petit bout de temps, refuse de lui passer.
Oui, c'est la mère.
C'est la mère.
C'est la mère qui fait barrage, évidemment. Elle est odieuse, elle sent bien qu'il y a quelque chose entre son fils et cette cousine.
J'adore Josiane, qui est une très grande comédienne, là je l'ai détestée.
J'ai trouvé détestable. Elle fait tout pour. Je peux te rassurer, elle est aussi détestable sur scène qu'elle est adorable dans la vie. Oui. C'est une bonne maman qui adore sa fille, une super grand-mère qui adore son petit-fils.
Je l'ai reçue ici, et je l'avais reçue pour Amère Clavière. C'était un spectacle, un coup de cœur. Et elle était très intimidée. Et j'adore cette femme que je trouve tout simplement prodigieuse. Voilà,
c'est ça. Ouais, très émouvant.
On se remet un petit peu de Bruno Pelletier.
Ah oui.
Alors, Bruno Pelletier, Elliot Ness. J'adore Bruno Pelletier. Si vous ne l'avez pas compris, je ne sais plus quoi faire. Et on va écouter. Alors là, il rigole pas. Je te briserai. Paf!
Dans les bas-fonds de Chicago, j'entends ton nom. Et dans ma tête résonne en écho comme un démon. Tu as pris mon corps, mon esprit et mes pensées. Je ne trouve plus la sortie, je suis damné. Comme tu ne sors pas de ma tête, je vais tout faire pour que ça s'arrête, pour te briser. Ton arrivée en ville et de ton fric, la ville était presque tranquille et moi rien qu'un flic. Mais tu réveilles toute ma noirceur jusqu'à me servir ta sœur pour te briser. Sois-tu mort, sois-tu vie, dans la peur d'être pris, je t'aurai, je le jure, je saurai ta torture, je te briserai. Où que t'ailles, j'y serai.
cette bataille est gagnée. Vas-y, cours te planquer. Je viens pour te briser.
Voilà. Merci Bruno. Alors Stéphane a une remarque d'une justesse absolue. Tu
oui.
peux la dire?
Ben oui, je disais que le titre de cette chanson, « Je vais te briser », c'est ça?
Yes.
Me fait penser à Notre-Dame de Paris, « Tu vas me détruire ». Que j'avais travaillé, moi, en atelier musical. « Tu vas me détruire, tu vas me détruire, nanana, nanana, nanana. »
Est-ce que tu fais de la danse aussi?
Oui.
Parce que t'es un,
je suis pas un danseur professionnel.
T'es quand même un sportif accompli.
Oui, j'ai fait pas mal de sports autrefois, ouais, des arts martiaux. Et là, comme j'ai un petit de l'alpinisme, du tennis, planche à voile, tout ça. Mais là, comme j'ai un... Alors, j'ai mon grand-fils qui a 22 ans, qui fait du rap sous le nom de Rocky J, et que je salue et que j'embrasse du plus profond de mon cœur et à qui je souhaite une brillante carrière.
Il vient quand il veut, Rocky J.
Eh ben, écoute, ça lui fera très plaisir. Et puis là, j'ai le petit frère qui est né 21 ans après, qui a 13 mois, enfin 14 quasiment, et petit Lorenzo. Et grâce à Lorenzo, je vais être obligé de me maintenir en forme physiquement.
Mais... Oui.
Parce que lui, il a la forme. Il commence à marcher, il cavale partout. Ouais. Donc je me remets au sport, effectivement. Mais alors, parmi les projets sympathiques que j'ai dans les tuyaux, j'ai notamment un cabaret Boris Vian. Donc là, nous allons chanter. Je serai la seule voix masculine. Il y aura trois voix féminines. Marie Piton,
oui.
que tu connais, Colette Craff et Valéria Dafara. Et nous
qui
sommes
celle que je ne connais pas. Les deux autres sont déjà venus
qui
ici.
Qui gagne à être connue et qui est une formidable comédienne chanteuse italienne. Et nous serons mis en scène par Philippe Huchan. Mon camarade de Silence on tourne,
ouais.
et notre directeur musical est l'immense maestro Patrice Pereiras.
Ah, oui.
Voilà.
Et ça sera où?
Alors, pour l'instant, nous envisageons une création à Avignon.
Oui.
On a des lieux de résidence déjà là qui nous attendent en mars, avril, mai, juin. Le créneau qu'on avait trouvé en Avignon est en train de se décaler et ça va être trop tard.
Ouais.
On peut pas envisager faire un spectacle musical passer 11h, 23h, c'est pas possible.
Ouais, ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Donc on est en recherche, voilà, on est en recherche de voir s'il y a des créneaux encore disponibles dans des bonnes salles. Après, on sait très bien qu'au printemps, vers le mois de mars, avril, il y a des créneaux qui se libèrent.
Il y a des créneaux qui se libèrent en général, oui.
Voilà. Et si c'est pas pour Avignon cette année, ça pourrait être pour Avignon l'an prochain. Mais de toute façon, on va faire des dates en tournée pour roder ce cabaret musical. Voilà.
Et pourquoi pas au petit Montparnasse à la rentrée?
Ah, ben.
Ou alors, le théâtre La Bruyère qui vient de changer de direction.
Exactement.
C'est Thibaut Dignan maintenant qui y est. Donc,
ouais. Thibaut et Fleur. Ouais. Ça pourrait, oui, ça peut tout à fait les intéresser.
C'est important ce que tu dis parce que, j'ai beaucoup de jeunes qui voulaient, les parents voulaient les envoyer à Avignon, patati patata. Faites attention, il faut avoir l'air insolide. Parce que je connais des compagnies qui ne s'en sont pas remises s'ils n'ont pas de préparation.
C'est un petit peu le miroir aux alouettes, Avignon. Ça coûte cher. Entre la location de la salle, le logement, sans compter les transports, enfin, il faut avoir l'air insolide, ça c'est sûr. Ouais.
Alors,
et être dans une bonne salle et avoir un bon créneau.
Un bon créneau, c'est très important.
En amont, Avignon.
Voilà,
c'est-à-dire avec un ou une chargée de diffusion. L'attaché de presse, c'est pas indispensable.
Non.
Parce qu'à Avignon, de toute façon, les journalistes font leur boulot, ils vont voir les spectacles. En priorité, je pense qu'ils vont voir les créations. Ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne affiche. Moi, j'avais monté en 2008 mon spectacle sur les contes de Perrault sa cartoune.
J'allais t'en parler, justement. Bah, voilà. J'adore ce spectacle. J'ai vu au mois d'août trois fois. C'est un drôle.
Ouais, que j'ai créé chez mes amis Dominique Fataccioli et au Bourgneuf et Feu Daniel Duplex, qui était comme un grand frère pour moi. Je me remets toujours pas d'ailleurs de son départ. Il y a des êtres comme ça qui nous marquent profondément.
Absolument. Oui.
En plus, on a été coloc à une époque. Avant, je rencontre la maman de mon fils aîné. Enfin, et donc voilà, j'ai créé Perrault sa cartoune en Avignon, et je pense qu'un des succès, une des raisons du succès de ce spectacle, alors que personne ne l'avait vu, c'est vraiment création Avignon.
Mais l'affiche, L'affiche Tounesque.
L'affiche, elle
était. Et puis Perrault, et puis
elle
moi
était
je sais.
Très forte.
Ça plaisait aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
C'était le but.
Et voilà, et donc,
comme ça.
Voilà, moi je l'ai vu deux ou trois fois.
Ah, ouais, ouais.
Voilà, donc, un jour je passais, et puis j'avais raté un spectacle, et puis il y avait quelqu'un du théâtre, il me dit, tu veux le revoir? J'ai dit, allez, pourquoi pas. Puis après, j'ai fait mon article. Alors, à la demande express de ces messieurs, qui disent, on en a marre que tu parles que des mecs.
Ah ouais.
Passe-nous la chanson d'un Rangoon.
Mais oui.
Ah bah oui, en plus, elle a des robes. Puis elle est vraiment magnifique.
Ah bah c'est une princesse, Rangoon. Hein.
Elle chante bien, elle joue bien, elle est très belle. Pour un peu, on la détesterait, mais non, on l'adore.
En plus,
on
elle
écoute
est sympa.
Tout de suite Rangoon.
Je n'ai qu'un marché, je n'ai qu'à poser, les hommes sont à mes pieds, ils sont à la rue, ils sont foutus.
La magnifique Rangoon, on doit reconnaître que cette femme est superbe. Et donc, elle est dans Al Capone, qui se joue actuellement aux Folies Bergères. Et vous pouvez y aller. Moi, j'ai passé une excellente soirée. Mais j'ai avec moi le seul, l'unique, un des sociétaires de cette émission. J'ai nommé le seul, l'unique, le beau Stéphane Roux. Parce que Stéphane est très beau garçon et il a grandi, ce qui est quand même un prodige. Il est là pour Glenn, naissance d'un prodige, la nouvelle création d'Ivan Kader. À mon avis, je le connais, il écrit à peu près 18 pièces par an.
Ah
donc voilà.
Oui.
Alors, Là, on peut le dire, parce que c'est souvent des termes qui sont pas vrais, mais la presse est unanime.
Ah oui.
Il n'y a pas un couac, non, la presse est unanime. Et donc, c'est l'histoire de ce prodige de la musique, cet interprète absolument incroyable. Et franchement, aller sur YouTube voir des extraits quand il a enregistré les variations de Goldberg sur sa petite chaise d'enfant. Et moi, je suis restée scotchée sur ces films qui sont des documents. Alors, par contre, c'était l'enfer avec lui d'enregistrer un disque, parce que comme il avait l'oreille absolue,
absolument.
Et puis il avait une exigence maniaque. Il y en a d'autres qui l'ont, Mais c'est vraiment. Donc la pièce se joue au théâtre Le Splendide du mardi au samedi à 21h, le samedi à 16h30, dimanche à 15h. Et on peut remercier encore Madame Hidalgo qui nous pourrit la vie à nous qui sommes à mobilité réduite.
Voilà.
Puisque nous devons dire que si nous prenons une voiture, ce n'est pas par vice anti-écologique, c'est parce que les transports en commun ne sont pas adaptés lorsqu'ils ne sont pas en panne. Voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez de supprimer les places pour les personnes à mobilité réduite, ce que j'ai constaté hier dans le quartier des Folies Bergères, où on supprime des places, et croyez bien, les vélos n'ont pas besoin d'avoir des fils à droite et à gauche. On va où, nous? Madame Hidalgo, vous pourrissez Paris, je vous le dis, les commerçants arrêtent leur exercice. Comme m'a dit une enseigne que je ne peux pas citer, rue de Rennes, elle me dit, on s'en va, puisque même nos livreurs ont des contraventions.
Bien
voilà.
Sûr.
Donc, Madame Hidalgo, voilà. Je n'en dis pas plus, mais la rue de Vaugirard, c'est un poème.
Voilà.
Un poème.
Ouais.
Plus personne ne peut rouler, les pompiers ne peuvent pas passer. Donc, voilà. Merci, Madame Hidalgo. Allez faire, allez ailleurs. Et foutez-nous la paix. Je pense que petite fille, elle devait vouloir jouer avec les petites voitures de son frère. On lui a interdit, et puis ça, elle a dit, je veux me venger, voilà.
Ça doit être
voilà,
ça.
Voilà.
Ça serait intéressant de savoir quelle est l'origine de la blessure
narcissique. Moi, je pense qu'il faut faire un travail analytique. En tout cas, et je fais référence à la prochaine émission de Opus du mercredi, j'ai une dent contre elle, puisque je recevrai un livre qui s'appelle Dentologie, mais Dentologie D-E-N. Et alors, moi, forcément, qu'il y ait beaucoup de dentistes dans mon entourage, on choisit pas, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Mais en attendant, Stéphane, tu as des annonces de spectacles qui t'ont plu.
Oui, parce que comme j'ai la chance d'être dans un très beau spectacle et que voilà, je considère que c'est une chance, je saisis la balle au bon, et merci Marie-Laure, pour parler d'un... Alors, on dirait entre guillemets un petit spectacle, parce que c'est un spectacle totalement artisanal et qui se joue dans une petite salle pour l'instant, mais c'était blindé. J'y suis allé hier à 19h, parce que je peux aller voir un spectacle à 19h et foncer un peu au Splendide pour jouer à 21h. L'avantage de jouer un peu tard. La pièce s'intitule « Lilou », écrite et mise en scène par Alexandre Ridel. C'est bouleversant. C'est l'histoire d'une petite fille qui est hospitalisée parce qu'elle a un cancer. Et son papa qui fait des pieds et des mains pour essayer de lui égayer son quotidien, ainsi que l'équipe médicale qui s'occupe d'eux, qui sont vraiment bouleversants. Et évidemment, à un moment donné, le service va fermer. Sur les ordres du ministère. Alors, c'est à La Flèche, au 77 rue de Charonne. Et sur scène, vous avez Chloé Sauvigné, Roxane Michelet, Romain Augereau, Maxime Guerville et Alexandre Ridel. Donc, qui est vraiment au four et au moulin. C'est bouleversant. Voilà. Et un autre spectacle dont je me permets de parler. On a la chance, nous, de pouvoir aller voir des spectacles gratuitement grâce à la carte Molière quand on y est éligible. Et mon coup de cœur précédent, c'est la nouvelle pièce de Mélodie Moret, Big Mother au Bélier.
Qui est une pièce.
Alors moi,
qui
suis un ancien journaliste, chère Marie-Laure, j'ai pris un pied. C'est magnifique, c'est une écriture, on se croirait dans une série américaine, un thriller à la 24 heures chrono, autour de... Elle a un talent fou,
j'y vais
elle est géniale.
Hein. J'y vais la semaine prochaine.
Bon, bah, tu vas te régaler. Voilà. Et alors ça va vite, hein, ça va vite, parce que ça se passe quand même sur fond de journalisme d'investigation, avec un scandale d'État, autour des big data, de nos données personnelles qui sont manipulées. Enfin, et c'est totalement aux prises avec l'actualité, avec ce qu'on vit, avec... Elle est formidable.
Elle est au Bélier parisien.
Et c'est au Bélier.
Hein? Voilà.
Ouais.
C'est normal. C'est un peu, c'est
bah
tout
ouais.
ça sème. Alors, on en parlera plus tard, mais je vous en parlais tout de suite. Le manteau de Janice est au Petit Montparnasse à 21h avec Alison Paradis, Philippe Lelièvre. C'est une pièce d'Anne Atelier. La mise en scène est de Philippe Lelièvre et de Delphine Piard. Et, la pièce parle de l'handicap d'une façon très intelligente. C'est quelque chose en plus, les possèdes qui sont en fauteuil roulant, je m'en occupe, donc je vois. Et je trouve que Philippe Lelièvre est tout simplement exceptionnel. Franchement.
Super.
La pièce, alors, je vais écrire un papier dessus. Alors, le papier, ça pose des problèmes parce que t'as plein de choses qu'on n'a pas envie de dire pour que le public le découvre. Donc, alors, je vous dirai pas pourquoi ça s'appelle Le Manteau de Janice. Non. Je ne vous dirai pas comment ça se termine. Non, je vous dirai comment ça commence quand même pour vous donner un petit peu envie d'y aller. Et par contre, j'ai beaucoup aimé le personnage que crée Alison Paradis parce que, et on est plusieurs à avoir pris une claque dans la salle parce que, elles connaissent pas Janis Joplin et pour elle, quand même, les Beatles, les Who, les Rolling Stones, c'est des musiques de vieux. Donc je dis merde. Et alors c'est marrant parce que dans la salle, à un moment donné, le personnage qu'interprète Philippe met sa musique quoi. Et puis on est tous tananan. Bon voilà, on est des vieux, on assume, c'est comme ça.
Je me tourne
vers mon réalisateur préféré pour savoir si nous avons le temps de faire une autre pause musicale. Non.
Petite.
Kleine pause musicale. De combien tu l'as vu, la pause musicale? De ce que je veux, donc.
Eine kleine Nachtmusik.
Bon, allez, attends, il faut que je regarde parce que j'ai des pauses musicales qui sont tellement longues dans celles qui étaient prévues. Eh ben, écoutez, on va passer Bleu, Blanc, Rouge de Petula Clark pour faire plaisir à Stéphane.
Ça fait très plaisir.
Bleu, Blanc, Rouge, tous les pays où j'aime vivre ont un drapeau. Bleu, Blanc, Rouge. Toute ma vie est couronnée par ces trois mots. Je suis née comme Shakespeare dans le royaume d'Angleterre. Et j'ai grandi dans la fierté de sa bannière. Bleu, blanc, rouge, flottait au mât de ce bateau qui m'emportait. Bleu, blanc, rouge, je débarquais dans cette ville de Calais. À Paris, petite anglaise, on m'a donné une grande chance. Et j'ai fait mienne ces trois couleurs de la France. Bleu, blanc, rouge, c'était enfin, c'était encore. C'était aussi bleu, blanc, rouge. 50 étoiles pour 50 États-Unis. Et là-bas, à tout jamais sur cette terre aux plaines immenses, j'ai embrassé le rêve fou de mon enfance. Bleu, blanc, pays où j'aime vivre en un drapeau. Bleu, blanc, rouge, toute ma vie est couronnée par ces trois mots. Trois couleurs qui dans le ciel claquent au vent de l'Amérique. Au vent de France et puis des îles britanniques. Bleu, blanc, rouge.
Voilà, notre Petula Clark, qu'on aime beaucoup.
Même quand elle chante, elle est jolie.
Oui.
Hein, sans qu'on la voie, elle a une jolie voix.
Elle était ravissante.
Oh,
voilà. Donc en plus, elle avait beaucoup d'humour.
Oui. Ah, bah, comme souvent les Anglo-Anglais.
Moi, il y a une
Anglais,
chanson que j'adore, qu'on me passait quand j'étais petite fille, qui était, elle est dans un château en Écosse et le fantôme s'appelle Mortimer.
Mmh.
Moi, je trouvais ça mignon comme tout, donc, et donc, dans l'un de ces shows, il y avait des fantômes comme ça, donc c'était, oui, parce que je crois aux fantômes. D'ailleurs, il y en avait dans ma maison familiale, il y avait des fantômes.
Bien
alors,
sûr.
Les nouveaux propriétaires, ils sont plutôt gentils. Donc,
bon.
Voilà. S'ils font des problèmes à la maison, on verra après. Bon. Donc, Stéphane, tu nous as fait des coups de cœur et merci. C'est toujours bien d'avoir des antennes parce qu'on ne peut pas tout voir.
Bah, c'est compliqué. Hein.
C'est pas possible. Est-ce que tu as vu Quai des Orfèvres ?
Et non. Malheureusement, je peux pas. Mais par contre, on peut en parler.
Voilà.
Puisqu'ils sont
alors Quai des Orfèvres,
tout comme nous
alors,
au Petit Montparnasse.
On connaît surtout le film,
ouais.
Le magnifique le film de Clouzot. Par contre, avec Bernard Blier, la divine Suzy Delair, Vincent Scotto, qui fait un petit rôle, et Louis Jouvet, qui fait un inspecteur, voilà. Donc, Quai des Orfèvres parle d'un crime d'un vilain monsieur, qui est interprété par Charles Dullin. Vraiment, il y a des gens de théâtre très importants, voilà. Donc, alors, en voyant ça, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais oui, il y a des livres que je n'ai pas lus, c'est extraordinaire, mais c'est un auteur qui a écrit énormément de romans policiers, c'est Stanislas André Steinman, qui je pense était belge, à qui on doit beaucoup de livres, des trucs comme ça. Et là, la mise en scène de Raphaël Dezelle-Lehmann nous reconstitue le véritable roman. Donc on voit toute l'adaptation. Alors, il y a un gros effort sur les décors, sur les costumes, et on est bien mené par tout ça. C'est à voir, c'est à 19h, donc vous pouvez faire Quai des Orfèvres, et vous pouvez faire Le Manteau de Janice, mais surtout vous
dans
allez
la
voir,
même salle,
vous allez voir Glenn, parce que c'est magnifique, et Stéphane Roux est un comédien que je déteste, donc vous pourrez aller le voir. Je remercie infiniment pour la technique, le grand, le sale, l'unite, le meilleur réalisateur de France, et même, on peut le dire, des tropiques, Francky. Voilà. Je vous remercie tous, on se retrouve samedi pour une musicale, qui théoriquement est sur Félix Mendelssohn, mais je me méfie de mes annonces parce que je me trompe assez souvent. Mais elle est très bien. Elle est très très bien cette émission. Merci Francky, merci Stéphane, merci mes futurs invités. Au revoir.